Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Les deux seules femmes de l'histoire des États-Unis à avoir été candidates à la présidentielle pour un grand parti ont été battues par Donald Trump. Kamala Harris et Hillary Clinton, qui avaient remporté le vote populaire, ont montré au monde que les femmes sont entrées dans la course au sommet des grandes puissances. Toutefois, le taux de femmes sénatrices et représentantes au Congrès américain ne dépasse pas les 30% et il risque de très peu progresser selon les analystes. Alors, selon vous, est-ce que le facteur genre a influencé le choix des électeurs américains? Pourquoi le Parti démocrate a misé deux fois sur une candidature féminine? Pensez-vous que la société américaine a des préjugés sur le leadership féminin? Qu'en est-il chez vous et comment changer ses perceptions, hein? En somme, les préjugés sur le leadership féminin qui persistent, hein, d'une certaine manière. Alors, nous avons comme invité Chantal Faïda, experte en genre et gouvernante, ancienne candidate à la députée nationale en République démocratique l'an dernier. Chantal, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci beaucoup, Nathalie. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors, Chantal, selon vous, qu'est-ce que dit le Parti démocrate en choisissant à deux reprises une femme comme candidate? Est-ce que cela veut dire qu'il croit en elle, finalement? En revanche, nous savons que le Parti républicain n'a jamais choisi une femme comme candidate et il y avait pourtant des grandes figures, notamment comme Nikki Haley, à un moment donné, qui était dans la course. C'est un cas quasiment unique au monde, d'avoir vraiment choisi à deux reprises à la tête d'un grand parti, une femme à la présidentielle. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cela, selon vous?
Je pense que c'est un symbole très fort et qui marque l'évolution de tradition et même des mentalités dans ces partis démocrates qui donnent la possibilité d'inclusion à toutes les couches sociales. Mais encore faudra-t-il investir de manière claire dans les candidatures de ces femmes? Parce que pour ce qui concerne Kamala Harris, je peux noter que le parti ne s'est pas impliqué dès le départ en autorisant une campagne précoce à Kamala Harris. Donc les votants démocrates l'ont su un peu en retard et donc il y avait déjà une forte, un fort abstention de votants même démocrates en faveur de leur candidate. Donc une chose est d'aligner les candidates femmes, une autre est d'investir dans leur campagne pour convaincre aux votants de faire un bon choix en optant pour celles qui ont été alignées.
Voilà. Alors Chantal, j'ai parlé tout à l'heure du Congrès américain. On rappelle que seulement 25% de femmes sont au Sénat et 29% à la Chambre des représentants. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est moins que 17 pays africains. On écoute à présent l'écrivaine et professeure de français gabonaise Irène Dembe. Donc, elle est au Gabon.
Je crois qu'il faudrait commencer par interroger l'histoire des États-Unis s'agissant de l'obtention du droit de vote par les femmes. Une obtention assez tardive en ce qui concerne les femmes et qui pourrait justement expliquer cette situation. Je parle précisément de la sous-représentativité des femmes au Parlement américain, la Chambre des représentants et le Sénat. Il y a donc aussi à ce niveau-là une explication qui pourrait découler justement de ce rappel historique. On constate le faible nombre des candidatures féminines lorsqu'il est question de sénatorial. Il y a aussi les persistances de certains préjugés, les stéréotypes concernant les femmes, à dire que la femme est dénuée de fermeté, que les hommes sont beaucoup plus outillés en politique. Pour en revenir à la question de l'élection présidentielle américaine, on pourrait s'interroger s'agissant justement de la défaite de Madame Kamala Harris et se demander si les Américains sont disposés à porter à la tête du pays une femme. C'est vrai qu'on pourrait aborder ces questions de préjugés, de stéréotypes, mais ce sont des questions qui ne pourraient pas permettre de répondre totalement à cette question. Il y a peut-être eu justement des électeurs qui étaient animés de ce type de préjugés. Et je pense que dans le cas de Madame Harris, le fait que Joe Biden ait justement décidé de s'arrêter à mi-parcours a joué en sa défaveur. Elle n'a eu que quelques semaines pour tenter de susciter l'adhésion des électeurs. Il y a aussi les attentes du peuple américain. Il y a aussi peut-être ce besoin de changement, de passer d'un président démocrate à un président républicain avec une autre vision de la gouvernance.
Voilà, c'était la réflexion de Irène Dembé, donc au Gabon, qui en effet donc évoquait plusieurs facteurs, bien entendu, qui entrent en jeu dans une élection, forcément. Alors, Chantal Faïda, à propos du genre, on peut peut-être rappeler que le président élu Donald Trump a choisi une femme, Susie Wiles, au poste de chef de cabinet de la Maison Blanche. C'est une première aux États-Unis. Elle était donc sa directrice de campagne. Chantal Faïda, on va parler un petit peu du cas congolais, parce que vous avez donc écrit un ouvrage sur la gouvernance, en particulier donc les femmes qui s'engagent en politique. Donc c'est un cas très particulier. Donc qu'est-ce que vous auriez à dire, finalement, si on peut résumer en tout cas votre expérience par rapport à tout cela? Vous avez également été candidate, mais pourquoi avez-vous écrit ce livre, finalement?
En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je dois dire qu'il y a une sous-représentation remarquable de femmes dans les instances politiques et j'ai voulu interroger les déterminants de cette situation parce que l'humanité est constituée des hommes et des femmes, mais quand on parle politique, on voit une seule partie de l'humanité qui est représentée et une autre qui est sous-représentée, alors que les solutions devraient venir de tous côtés, des hommes et des femmes. C'est ainsi qu'en interrogeant les facteurs, parce qu'ils sont multiples, qui expliquent la sous-représentativité des femmes ou l'invisibilité des femmes en politique. Je note trois facteurs, les déterminants politiques où il y a des normes, il y a des lois qui sont votées mais qui ne sont pas mises en œuvre. Il y a aussi les déterminants culturels où il y a le poids des traditions qui empêche la femme de se présenter dans l'espace public et la résigne à être visible dans l'espace privé. Et le dernier déterminant, il est économique et l'absence des mentors. Peu de femmes veulent être premières à occuper tel poste. Elles veulent d'abord voir d'autres femmes à ces postes pour pouvoir suivre les pas. Et quand je dis déterminant économique, c'est le faible pouvoir économique des femmes à cause du faible accès à l'éducation jusqu'au niveau post-universitaire et même dans des recherches, parce que pour occuper des postes politiques, il faut venir avec un programme, avec une vision des sociétés qui est nouvelle, qui est innovante, avec des stratégies réalisables. Et donc, tout cela est repris dans les livres, mais beaucoup plus le travail revient aux femmes, parce que ce sont les femmes qui sont les premières éducatrices de la société. Si elles investissent dans l'éducation de la société, il y aura un changement des mentalités.
Alors, écoutons à présent Yvette Alavou. Elle est spécialiste en marketing au Bénin.
Donald Trump a gagné face encore à une femme. Cela prouve effectivement que l'Amérique, encore une fois, a un problème avec le leadership féminin. Mais je dirais beaucoup plus que cela, c'est l'Amérique profonde, parce que les plus grands conservateurs ont encore du mal à voir le leadership féminin s'exprimer comme il se doit, malheureusement. La deuxième chose, je dirais également que nous les femmes aussi, au-delà de ce que l'on peut penser, nous ne nous faisons pas assez confiance. Et cela est plus criard dans nos pays africains. Nous préférons faire confiance aux hommes plutôt qu'aux femmes que nous sommes. Et pour finir, je dirais tout simplement que, de façon générale, les hommes sont conscients du potentiel. Et quoi qu'il arrive, ils feront tout pour nous faire barrage si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas en conséquence et si nous ne nous éduquons pas comme il le faut pour qu'à un moment donné, plus de femmes puissent parler d'égal à égal, comme nous voyons le cas de plus en plus de nos jours.
On se rend à présent à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans votre pays, Chantal, pour écouter Maître Christian Politassi.
Je crois que tout est parti d'idées qui est proposé par les deux formations politiques. Vous avez d'un côté les républicains ont proposé un ticket gagnant, Trump et son vice-président, et une personne ayant un parcours inspirant. des télé-réalités aux milliardaires et puis voilà, chef de l'État. Et son vice-président, comme une personne qui a commencé sa vie de nulle part pour arriver là où il est. De l'autre côté, vous d'abord, c'était Joe Biden, obligé de se retirer. Et puis, Harris est tombé comme un cheveu dans la soupe. Une personne plus influente par rapport à d'autres figures au sein de, sa formation politique. C'est là joué. Et il y a également l'aspect sur les différentes thématiques abordées pendant cette campagne électorale. L'un a appuyé sur l'accélérateur de l'économie et l'autre a parlé beaucoup sur l'avortement. Et donc, du coup, c'est là à donner libre choix aux Américains de voter plus l'économie et non autre chose. Concernant l'aspect lié à sa féminité, je crois que ce n'est pas vraiment grand-chose. Le fait que qu'elle soit déjà vice-présidente, c'est vraiment une chose très importante. En Amérique, il n'y a pas vraiment des stéréotypes de genre comme en Afrique.
Chantal Faïda, peut-on envisager, alors si on envisage une présidentielle avec deux femmes candidates, hein, ce qui n'est jamais arrivé et ça viendra un jour, alors serait-ce selon vous différent en matière de campagne électorale ou de choix pour le vote? Là, on n'aura plus le facteur genre puisque nous avons deux femmes. Est-ce que les choix seraient finalement plus ciblés sur les politiques réelles, étant donné que l'on serait débarrassé, je vais dire, hein, de l'aspect genre et du risque de voter pour l'autre candidat sous le seul prétexte qu'il est un homme? Parce que nous savons que des gens votent de cette manière.
Oui, je pense qu'à ce niveau, ça sera vraiment un exercice très intéressant parce qu'on va pouvoir écouter des programmes et des visions de société. Encore faudra-t-il préciser ici que généralement, les candidats représentent leur formation politique. Mmh. Et donc, ce n'est pas à elles seules de pouvoir porter seule la vision. Donc, il y a toujours de proches, des cadres du parti qui donnent le ton et qui même s'impliquent pour la matérialisation de cette vision. Là. Et donc, on aura, si jamais on a ce scénario de deux femmes candidates, on va pouvoir interroger plus les programmes, la vision de société de chaque parti pour voir lequel soulage un peu la souffrance de la population ou lequel tient en compte les besoins de la majorité de la population qui est dans les besoins. Et très souvent, c'est les femmes, les filles et d'autres couches vulnérables. Donc, celle qui va proposer un programme qui tient compte des femmes, des filles, je pense qu'elle aura vraiment beaucoup de popularité et même de chances de passer parce que c'est la majorité de la société qui a besoin de trouver des solutions à leurs problèmes.
Écoutons à présent Gisèle Tshilingi, elle est politicienne, elle est cadre du parti ADC en République démocratique du Congo.
Je pense effectivement que les Américains ne sont pas prêts de voir une femme à la tête. Déjà, qu'ils viennent tous en donneur de leçons dans les pays d'Afrique, mais ils ne sont pas du tout prêts de pouvoir voir une dame. On ne peut même pas dire c'est parce que c'était une dame qui n'est pas d'origine américaine. On l'a vu avec Hillary Clinton. C'est pareil chez nous en RDC. Les gens ne sont pas encore prêts pour pouvoir voir une femme à la tête. Nous avons une première ministre, pour une première fois d'ailleurs, imposer choix du chef. Je pense que si ça ne dépendait que de l'entourage du chef ou de sa classe politique ou du Parlement, du Sénat, toutes ces personnes-là, tout ce monde d'hommes, on n'aurait même pas eu une première ministre.
Écoutons, alors à présent, Chantal, je voudrais évoquer un sondage AP, hein, ça s'appelle Votecast. Il a été réalisé sur 120 000, sur un échantillon de 120 000 personnes. Donc c'est vraiment un échantillon large. Alors Harris a obtenu 55% des votes des femmes de 18 à 44 ans. Elle a obtenu 51% des votes des femmes de 45 ans et plus. Trump a obtenu 43% des votes des femmes de 18 à 44 ans et 47% donc des femmes des votes de femmes de plus de 45 ans. Et une femme sur 10 a dit que l'élection d'une femme présidente était le facteur principal de leur vote. Et 4 femmes sur 10 ont dit que ce n'était pas du tout un facteur de motivation. Et les sondages montrent qu'en moyenne, Harris a bénéficié du soutien de 52% des électrices et donc de 43% des électeurs, tandis que Donald Trump a bénéficié de 53% des électeurs masculins contre 44% des électrices. Alors qu'est-ce que cela vous inspire ?
Bon, pour moi, je pense que le fait de voir une large majorité de femmes voter pour Kamala Harris, c'est vraiment un progrès vers une parité dans les instances politiques, mais aussi à cette solidarité, cette sororité qu'on a toujours demandé, parce qu'il y a une des intervenantes tantôt qui a parlé de cette confiance que les femmes doivent faire dans les candidatures d'autres femmes. Ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait parce que les femmes sont majoritaires et si elles décident de voter pour femmes, en tout cas, les femmes seraient élues sans problème. La plupart d'hommes qui sont élus les sont par les votes de femmes parce qu'elles sont majoritaires. Et donc, c'est mettre sur pied des réseaux forts, des réseaux puissants pour soutenir les candidatures des femmes serait vraiment un enjeu majeur pour améliorer la visibilité des femmes dans les instances politiques, aussi bien au niveau des États-Unis qu'en Afrique.
Écoutons à présent Fernandez Toyou, c'est un auditeur de VOA Afrique, il est au Togo, à Sokodé.
Je pense que les Américains, pour le moment, ne sont pas prêts à être dirigés par une femme. Je crois que ça s'est constaté par deux fois de suite. La première fois que M. Donald Trump a remporté les élections, c'était en 2016 et c'était devant une femme. 8 ans après, c'est devant une femme aussi qu'il remporte l'élection. Même si ce n'est pas une conclusion définitive, on peut tirer une conclusion partielle pour dire que les Américains, pour le moment, ne veulent pas être dirigés par une femme. Au niveau du Sénat et de la Chambre, vous voyez que ça se constate et il va falloir tenir compte de ça. Et maintenant, en Afrique, c'est pratiquement la même chose, sauf que chez nous, ça dépend. On peut nous imposer des gens pour dire désormais, ils vous dirigent. Dans la mesure où les choses ne sont pas transparentes, les choses ne sont pas démocratiques, si quelqu'un veut, dans un coin de l'Afrique, que voilà, quelqu'un ne soit à la tête du pays, ça va être le cas.
Écoutons à présent l'ancienne députée et juriste malienne Aïssata Touré Diallo.
Est-ce que le genre a joué un rôle dans l'élection de Trump? Moi, je suis sûr que oui. Oui, parce que, comme on l'a dit, les mentalités ne sont pas encore prêtes pour mettre une femme à la plus haute responsabilité d'une nation. Certains pays ont osé, mais la plus vieille démocratie du monde n'est pas encore prête, à mon sens, à mettre une femme à la tête du pays. Ce n'est pas de l'incompétence, ce n'est pas de l'incapacité. Ce n'est pas le manque de charisme ou le doute. Non, c'est juste l'organisation du système. Quand je dis système, je parle de l'ensemble du système. L'administration, les procédures, tout ce qui concerne l'administration publique. Les dispositifs, en fait, les rouages ne sont pas encore à la faveur des femmes. Tout le système administratif, le dispositif est organisé autour des hommes. Les personnes les plus influentes sont les hommes. C'est difficile pour une femme de se faire une place ou un nom dans le dispositif actuel des États-Unis, surtout au niveau de l'administration. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis. Chez nous, c'est le même problème. En Afrique, bien qu'il y ait certains pays qui aient des femmes à la tête, dans d'autres pays, c'est très très difficile pour une femme de se faire une place. C'est pourquoi les démocrates ont fait confiance à deux dames. Je pense que l'évolution, les républicains et les démocrates, bien que le fondement soit à peu près le même, mais les visions divergent quant à l'ouverture des possibilités pour les femmes, les démocrates sont plus souples que les républicains.
Alors, ce que dit Aïssata Touré Diallo est en effet plus ou moins vrai parce que, par exemple, on a parlé tout à l'heure du Congrès américain, du pourcentage de femmes, et il y a beaucoup plus, en fait, de femmes sénatrices et représentantes démocrates que républicaines au Congrès américain. Chantal Faïda, il y avait, comme nous le savons, d'autres candidats, une centaine de candidats, des centaines parfois même de candidats à la présidentielle américaine, mais il y avait surtout les fameux candidats, third party candidates, comme on le dit, les candidats tiers. Et il y en avait quatre. Alors, hormis donc Harris et Trump. Donc, il s'agit de Jill Stein, des Verts, donc écologistes. Hein, elle s'est présentée pour la troisième fois. Il y avait Cornel West, un universitaire indépendant. Et il y avait Chase Oliver, du Parti libertaire. Et il y avait Claudia de la Cruz, une socialiste, hein, qui avait d'ailleurs choisi une femme comme colistier. Alors, il faut noter, dans donc ces six candidats, si on compte Harris et Trump, qu'il y avait trois femmes et trois noirs. Donc, les trois femmes, c'est Jill Stein, Harris, Kamala Harris et Claudia de la Cruz. Et les trois noirs aussi sont Harris, West et de la Cruz. Donc, quelle analyse faites-vous de ce casting de candidats, finalement, au niveau de la diversité?
Oui, je pense que c'est un progrès remarquable d'inclusion de couches sociales au niveau des élections, au niveau des carrières politiques et même de l'espace décisionnel américain. C'est vraiment un progrès à saluer de voir qu'il y a autant de Noirs, qu'il y a autant de femmes qui sont positionnées et dire qu'il y a certains partis qui doivent d'abord organiser des primaires avant de désigner leur candidat président. C'est vraiment des choses extraordinaires parce que là, on comprend que les votants font confiance aux candidatures qui sortent des primaires sans pour autant les remettre en cause et ils s'impliquent dans leur campagne pour parvenir à la victoire. En tout cas, ça c'est un progrès, mais il faut maintenant des efforts supplémentaires pour parvenir à faire passer ces Noirs, à faire passer ces femmes et surtout pour les États-Unis à faire passer une femme à la tête des États-Unis. Je pense que ça sera chose possible d'ici là parce que déjà avoir une vice-présidente pendant un mandat. Et là, une candidate qui n'a pas vraiment démérité parce qu'elle a été aussi élue massivement. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on y arrivera, une société juste, équilibrée, où toutes les voix soient entendues sans distinction de couleur, de peau ou de sexe.
Alors, il faut toujours rappeler que les États-Unis ont déjà eu un président noir, Barack Obama, pendant deux mandats, n'est-ce pas? Alors, nous avons Elodie Ntamuzinda, qui est en République démocratique du Congo. Elle est experte en élections. On l'écoute.
Si Kamala Harris a félicité Donald Trump, a fortiori nous autres, nous ne pouvons que le faire et suivre sa sportivité, sa flexibilité et son esprit d'ouverture. Et c'est ce qui me démontre clairement qu'elle n'a pas échoué, elle n'a pas démérité. Et nous avons vu comment elle s'est comportée sur terrain et nous sommes très fiers d'elle. Je félicite cette manière de s'ouvrir à l'échec. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rencontré Donald Trump et nous avons parlé, je l'ai félicité. Et je vous encourage, ne baissez pas les bras, l'échec n'est pas une fatalité. Donc elle a vraiment encouragé ses supporters à tous ceux qui l'ont porté. Mais entre-temps, est-ce que nous pouvons dire que les Américains ne l'aiment pas? Lorsqu'on peut avoir quand même un tel pourcentage, c'est quand même des millions de personnes qui ont cru en elle. Ce n'est qu'une élection, c'est une compétition. Et on doit toujours s'attendre soit à l'échec, soit à la réussite. Néanmoins, c'est la deuxième femme quand même à arriver à ce niveau-là. Après Hillary Clinton, mais quand même les États-Unis aussi, montrent qu'ils ne sont pas prêts pour porter la femme à la présidence de la République. Puisque les deux sont des femmes fortes, courageuses, et nous les avons vues quand même à l'œuvre. Et c'est quand même dommage puisque ce sont les États-Unis qui poussent même les Nations Unies en parlant toujours de l'égalité, du genre, l'équilibre et tout ça, mais incapables quand même de démontrer clairement qu'ils peuvent faire confiance à la femme à ce niveau-là.
On enchaîne tout de suite sur Julienne Lusenge, présidente de Sophie Paddy en République démocratique du Congo.
Je pense que l'échec de Kamala, que nous regrettons, nous, en tant que femmes, vient du fait qu'elle est restée dans les carcans politiques, les discours politiques, et n'est pas rentrée parler comme mère, comme société, même si elle disait de temps en temps qu'elle est mère et c'est la maman de tous les Américains. Aussi, l'impopularité du gouvernement ou administration Biden. Après Covid, on a vu l'inflation et puis on a vu aussi qu'ils n'ont pas pu convaincre les Américains par rapport à l'emploi.
Alors, Chantal Faïda, nous savons que les démocrates font habituellement appel à des stars. Le soutien de Beyoncé, Taylor Swift, George Clooney, Jennifer Lopez ou Lady Gaga n'a malheureusement pas permis à Kamala Harris de battre Donald Trump. Ce beau palmarès montre donc ses limites. Ils n'ont pas fait le poids. Là aussi, on avait une majorité de femmes finalement dans ces stars qui soutenaient Kamala Harris. Est-ce que le facteur... Alors, on sait que, par exemple, Laurence Maslone de l'Université Cité de New York a déclaré à l'AFP, les gens se rendent probablement bien compte que Beyoncé et George Clooney n'ont pas à s'inquiéter des prix de l'essence ou des œufs. Ça rejoint ce que disaient certains de nos auditeurs. Et l'on se souviendra que Frank Sinatra avait soutenu Kennedy en 1960 et tout est parti de là en ce qui concerne le soutien hollywoodien, on va dire aux démocrates, à savoir que les collectes de fonds à Hollywood ont réuni des dizaines de millions de dollars pour financer la campagne de Kamala Harris. Une somme qui a battu tous les records. Alors là, on voit finalement les limites de l'argent dans les campagnes. Ou serait-il mal utilisé? C'est la question qu'on peut se poser. Mais Chantal Faïda, quelle analyse finalement faites-vous de tout cela?
Oui, je pense que chaque élection était un cas d'école. En tout cas, du point de vue des sondages, on voyait Kamala Harris vraiment diriger les États-Unis, mais on a vu une déception lors de la publication des résultats. Et donc, les stratégies de campagne électorale peuvent fuser de partout, être retouchées, fignolées, mais au finish, ce sont les votants qui doivent être conscientisés, sensibilisés par rapport aux candidatures en face. Et pour les cas, on attendait vraiment vivre l'histoire d'une première femme qui dirige les États-Unis. On pensait que les Américains allaient donner au monde cette possibilité de vivre ces siècles là où la femme dirige. Hélas, mais on garde espoir que prochainement ça sera fait. Aussi, on doit comprendre que les républicains, ils avaient aussi des réseaux puissants. Quand on voit Elon Musk qui s'est impliqué beaucoup dans la candidature de Trump, et aujourd'hui, son entreprise a gagné beaucoup, beaucoup en termes d'investissement en bourse à cause de cet appui qu'il a donné à Trump. Donc, il faudrait que les quartiers généraux des campagnes puissent aussi revoir leur stratégie quand ils alignent des candidats, comment s'informer sur les stratégies des adversaires pour ne pas perdre, parce que c'est ça l'enjeu. Il ne faudrait pas vraiment y aller en triomphalisme alors qu'au fini, on veut vraiment la victoire de notre côté. Voilà.
Alors écoutons à présent médiatrice Kamoa. Elle est militante sociale à Goma, Chantal, dans votre pays.
Moi, je trouve que les Américains n'ont pas de problème de genre. Les Américains ne doutent pas du leadership féminine aux États-Unis. Mais les Américains se projettent dans l'avenir. Les Américains ont vu les conséquences que pouvait apporter le plan de Harris durant les 4 prochaines années. Et moi, je trouve que les Américains, ce sont des personnes qui réfléchissent. Ce sont les personnes qui ont besoin de voir le monde changer. Ce sont les personnes qui veulent voir de l'ordre partout dans le monde et pas enfoncer le monde dans le désordre. C'est pourquoi ils ont voté pour Trump. Ils ont réalisé qu'avec Trump, au moins l'ordre pourrait revenir. Et comme Trump promettait durant sa campagne, Trump promettait de mettre fin à la guerre dans le monde. Imaginez-vous, durant le règne de Biden, il y a eu des guerres partout dans le monde. Mais comme Trump lui promettait de mettre fin à la guerre...
Voilà, donc pour terminer, Chantal Faïda, très rapidement, nous avons environ 30 secondes pour vous. Les préjugés sur le leadership féminin, ils persistent quand même. Donc comment changer cela très rapidement?
Oui, je pense que les femmes doivent vraiment décider de se lancer dans cette course politique avec les mêmes armes qu'utilisent les hommes, c'est-à-dire une communication agressive, également une démonstration de force par des réseaux puissants qui appuient les candidatures et surtout des changements de mentalité qu'on doit pouvoir enseigner aux générations futures pour qu'il n'y ait plus de différences face aux hommes lors des élections, entre les hommes et les femmes, qu'on puisse faire confiance aussi bien aux candidatures des femmes en interrogeant leurs programmes.
Merci beaucoup.
Mais en les donnant aussi cette chance.
Un grand merci Chantal. Je rappelle que vous êtes experte en genre et gouvernante en République démocratique du Congo. Avec vous, c'était Nathalie Barge à la production, Firmin Max Koyaweda. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée et bon courage.